Praticien en relaxation. Module 1. Notion de base. Bienvenue dans ce programme de formation au métier de relaxologue. La relaxologie est définie comme un ensemble de techniques qui favorisent l'équilibre physique et mental d'un individu. C'est l'objectif recherché par le relaxologue lors de séances individualisées avec son client. Mais pour atteindre cet équilibre, il est nécessaire de comprendre le lien existant entre le corps et les émotions. En effet, l'un ne va pas sans l'autre. Un esprit apaisé ne le sera pas complètement dans un corps en souffrance ou mal accepté. À l'inverse, un corps en bonne santé souffrira d'émotions négatives et récurrentes. La relaxologie permet d'accepter son corps, de reprendre contact avec lui et de se réconcilier avec l'image que l'on peut en avoir. Elle aide à mieux se comprendre et à mieux faire face aux événements positifs et négatifs qui jalonnent notre vie. Sur le plan psychique, elle permet d'apprendre à lâcher prise et à évacuer le stress en prenant du recul. L'intérêt de cette formation est aussi de partager vos connaissances et les techniques étudiées avec d'autres personnes, vos clients, votre entourage. Mais vous devrez d'abord faire un travail sur vous-même en vous exerçant aux techniques appropriées. Il vous faudra ensuite les appliquer à la vie réelle, aussi bien dans la sphère professionnelle que relationnelle. Le relaxologue doit veiller à ce que les bénéfices tirés des techniques de relaxation dépassent la porte de son cabinet ou la durée de la séance et soutiennent le client au quotidien. Il doit faire preuve de pédagogie pour expliquer à ce dernier comment les utiliser en toute autonomie. Les méthodes de relaxation sont nombreuses. Le praticien les choisira en fonction de sa formation, de sa sensibilité et de ses compétences, mais aussi des besoins de ses clients. Elles prendront alors différentes formes, relaxation musculaire, technique respiratoire, visualisation mentale, méditation, auto-hypnose, art-thérapie, communication écrite et orale, sonorité, déploiement du corps dans l'espace, et devront répondre à différentes demandes. Amélioration de l'état de santé, volonté de retrouver une certaine quiétude ou détente, intérêt pour le dépassement de soi, etc. Les séances se dérouleront individuellement ou en groupe. Ce programme s'adresse donc à toute personne en recherche de bien-être, mentalement, physiquement, émotionnellement, socialement, etc. Pour elle ou pour les autres. Que votre motivation soit personnelle ou professionnelle, l'important est de la nourrir jusqu'au terme de cette formation. Vous découvrirez, au travers des différents modules, les techniques de relaxation les plus concrètes et les plus employées. Dans chaque module, les apports théoriques se mêleront aux exercices pratiques pour vous aider à les maîtriser. Ces techniques présentent des avantages non négligeables. Ce sont les plus simples à appliquer et les plus faciles à apprendre. Elles ne requièrent pas d'expertise particulière, ni d'équipement spécifique. Elles ne coûtent pas cher à mettre en place. Elles conviennent à une utilisation individuelle ou en petits groupes. Elles sont adaptées à tous les âges. Elles sont non-invasives et permettent aux clients de jouir d'un sentiment de contrôle. En France, la pratique professionnelle de la relaxologie ne nécessite pas de diplôme spécifique. Néanmoins, une certification est requise pour être assuré et ouvrir un cabinet. La plupart des relaxologues exercent au sein de cabinets privés. Cependant, ils peuvent aussi être amenés à intervenir dans différents secteurs, associations, hôpital, cliniques, entreprises. Les questions pratiques du métier de relaxologue seront abordées dans le dernier module. Conditions d'ouverture d'un cabinet, outils indispensables, publicité. Nous évoquerons également l'inévitable travail intérieur du relaxologue. Dans un premier temps, nous tâcherons de définir plus précisément l'essence et les techniques de base de relaxation. Puis, nous aborderons la question du stress et de la conscience corporelle. Les modules suivants présenteront chacun un type de relaxation différent. La relaxation progressive, les techniques respiratoires, les techniques de méditation, la visualisation, l'entraînement autogène ou la cohérence cardiaque. À vous de choisir la ou les techniques qui s'adaptent le mieux à votre personnalité et à la demande spécifique de vos clients. Qu'est-ce que la relaxation ? Dans l'inconscient collectif, la relaxation s'apparente à l'inaction physique, relâchement des fibres musculaires, détente et l'oubli très temporaire des soucis. En somme, cela reviendrait à prendre une pause avant de se jeter à nouveau dans la bataille que représente le quotidien. Mais la relaxation, au sens où nous l'entendons, va bien au-delà d'un simple moment de détente. Elle permet de s'apaiser et se ressourcer, mais aussi de prendre du recul sur son environnement pour l'aborder de manière plus sereine, le tout en s'accordant un moment rien que pour soi. Il est souvent facile de s'isoler pour souffler et reprendre son calme avant de repartir dans le feu de l'action, mais il est beaucoup plus difficile de s'apaiser durablement. C'est cet objectif que vous chercherez à atteindre. Contrairement aux idées reçues, notre environnement n'est pas stressant. C'est la manière dont nous l'interprétons qui produit cet effet sur nos émotions et, par ricochet, sur notre corps. En s'offrant un moment de relaxation profonde, nous pouvons reprendre le contrôle de nos émotions, les accepter et nous en détacher. Ainsi, nous pouvons aborder le quotidien comme une série de défis à relever et non plus comme une succession de moments de stress. En 1995, Ryman présente la relaxation comme un état de conscience caractérisé par des sentiments de paix, dépourvus d'anxiété, de peur et de tension. Cette définition fait aussi référence aux aspects psychologiques de la relaxation, sensation de plaisir, diminution des pensées stressantes. Un moment de détente permet de chasser le stress, mais pas de le combattre. Il faudra opérer une action en profondeur pour l'éliminer véritablement et ne plus le masquer temporairement. Pour cela, il faut définir plus précisément la relaxation. La dimension tant physique que psychologique du terme traduit ce lien intrinsèque existant entre le corps et l'esprit. L'état de relaxation peut être atteint par des techniques physiques, mais aussi cognitives, ou par une combinaison des deux approches. La pratique d'un loisir peut s'apparenter à une activité relaxante, liée au plaisir, libre de toute obligation. L'esprit n'est plus contraint et s'adonne à des occupations qui lui assurent un apaisement intérieur. Ces activités peuvent être plutôt passives, assister à un coucher de soleil ou se détendre en écoutant de la musique, mais elles peuvent aussi relever de l'effort physique, dans le cas de la pratique d'un sport. Leur point commun est de se définir par l'absence de stress, un concept fondamental dans la recherche de bien-être. Lorsque ces activités ne sont pas suffisamment efficaces pour soulager les tensions, une formation aux techniques de relaxation peut alors se révéler utile. Elles apportent des bienfaits sur le plan physiologique en diminuant le niveau de stress. Ainsi, elles aident à préserver le corps et à rendre davantage disponibles les défenses naturelles de l'organisme. Sur le plan cognitif, la pratique de la relaxation calme l'esprit et aide à élaborer des pensées plus claires. Dans certains pays asiatiques, la relaxation revêt d'ailleurs une dimension philosophique qui conduit à une plus grande conscience de soi. Les techniques pour atteindre une relaxation profonde ou brève diffèrent. La première implique un processus de relaxation totale, en position allongée, ainsi qu'un environnement calme, entraînement autogène ou relaxation progressive. La seconde emprunte des techniques de relaxation profonde, mais en version simplifiée. Ses effets sont immédiats. Elle peut donc servir à libérer rapidement les tensions en cas d'événements stressants à affronter dans la vie quotidienne. Les bases des techniques de relaxation. La relaxation peut donc être assimilée à un état caractérisé par l'absence d'inquiétude et d'angoisse, associé à des sentiments de tranquillité et de paix intérieure, et à une tension corporelle limitée. Elle implique une interaction complexe entre différents systèmes psychologiques et physiologiques. Ainsi, certaines méthodes relèveront davantage d'une approche somatique, comme la relaxation progressive, qui cherche à réduire la tension musculaire. D'autres s'attacheront à distraire l'esprit dont l'attention sera portée sur la source du stress, comme dans la visualisation mentale, ou focalisée sur un objet émotionnellement neutre, comme la respiration, dans le cas de la méditation. Quoi qu'il en soit, la relaxation fonctionne comme un médiateur qui diminue l'effet du stress sur le corps et l'esprit. La recherche a démontré les bienfaits suivants. Diminution de la pression artérielle, clarification de la pensée, réduction du rythme cardiaque et de l'anxiété, régulation de la respiration, stimulation d'hormones, endorphines notamment, permettant de détendre le corps et de soulager la douleur, physique et ou psychique. Cependant, l'objectif des techniques de relaxation ne se résume pas à une simple réduction du niveau de stress. Vous ne le concevez peut-être pas, mais ce dernier peut aussi être positif. C'est le cas lors d'un déménagement ou d'une promotion au travail, qui résulte en plus de responsabilités. Il devient négatif dans deux cas. Lorsque les mécanismes d'adaptation ne sont plus perçus comme performants, lorsque les défis à relever se présentent comme douloureux, injustes et difficiles à surmonter. En réalité, la performance et l'efficacité augmentent avec le niveau de stress, jusqu'à produire l'effet inverse lorsqu'il devient trop élevé. Il conviendra donc de trouver le niveau de stress adapté à sa personnalité, ses circonstances de vie et ses priorités. Les bienfaits de la relaxation peuvent varier en fonction du moment de la journée. Le matin, elle permet d'augmenter les capacités de concentration et de gérer plus efficacement son stress. En cours de journée, elle peut faire diminuer la tension avant l'apparition. La pratique est essentielle pour maîtriser les techniques de relaxation. Quand il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences, l'idéal est de s'exercer quotidiennement. La tension et le stress sont omniprésents dans notre existence. Par conséquent, ces méthodes ne seront efficaces que si elles s'intègrent pleinement dans votre vie. La qualité et la durée des entraînements, ainsi que votre niveau d'implication, sont essentiels pour parvenir au résultat escompté. Lorsque vous devrez partager ces techniques avec vos clients, prenez le temps de discuter avec eux et de les laisser exprimer leurs ressentis. Pour cela, ils devront être en confiance, afin de s'exprimer librement et être convaincus des bienfaits de ces méthodes sur vous-même. Prenons l'exemple d'un moniteur de sport. Lequel vous motiverait le plus ? Celui qui exécute les exercices avec vous ou celui qui vous regarde en vous expliquant quoi faire? Il en va de même pour le relaxologue. Il accompagne activement ses clients et ne se contente pas de les former théoriquement. Par ailleurs, le retour sur impression, verbal et ou écrit, est essentiel pour eux. Il les aide à prendre conscience de leur pouvoir de contrôle et à accroître ainsi leur motivation. Cette dernière peut être accentuée par la tenue d'un journal de bord. Il consignerait les temps de pratique et les changements observés sur le niveau d'anxiété ressenti. La durée de chaque séance variera en fonction de la technique pratiquée. Mais le plus important est de s'exercer quotidiennement, même sur une courte durée. Ainsi, 5 minutes de pratique par jour valent mieux qu'une heure par semaine. L'objectif à terme est d'atteindre 20 à 30 minutes de relaxation, une à deux fois par jour. Si vous n'y parvenez pas, limitez-vous à 10 ou 15 minutes une fois par jour. La régularité et la qualité des séances priment sur la quantité et la durée. Pour choisir votre moment propice à la relaxation, essayez de réunir ces conditions. À quel moment de la journée êtes-vous le plus stressé? En prévoyant votre séance de relaxation avant, vous serez plus détendu pour l'affronter. En la prévoyant après, vous serez apaisé et pourrez reprendre vos activités sereinement. Êtes-vous prêt à vous occuper de vous? La question peut sembler étonnante. Mais de nombreuses personnes éprouvent une certaine culpabilité à prendre du temps pour elles. Elles prennent ce choix pour de l'égoïsme. Votre rôle sera de rassurer votre client en tenant par exemple ces propos. Comment peut-on bien s'occuper des autres si l'on ne prend pas soin de soi en premier? Prendre 10 ou 20 minutes pour soi permet d'être plus efficace et compréhensif envers les autres, pour le reste de la journée. Cela se vérifie souvent dès les premières séances. À quel moment de la journée pouvez-vous être seul? La relaxation demande de la concentration. Il faut donc éviter le bruit et les sollicitations. Préférez un moment où les enfants sont absents, où le téléphone et l'ordinateur sont éteints, ou éteignez-les, etc. Et installez-vous où vous le souhaitez, dans un coin de la maison, dans le jardin, dans un parc. N'importe quel endroit où vous vous sentez bien fera l'affaire. Ce lieu devra, si possible, être dédié à ce moment particulier. Les symptômes douloureux, problèmes digestifs, maux de tête. La relaxation peut servir en cas de situation paraissant stressante. Pratiquée avant de quitter le travail ou en arrivant à la maison, elle aide à décompresser des tensions accumulées dans la journée. Ainsi, elle permet de se sentir suffisamment calme et revitalisé pour s'occuper de soi et profiter de ses proches. Enfin, avant le coucher, les exercices de relaxation aident à s'endormir plus rapidement et plus profondément, ce qui permet de se réveiller en meilleure forme. Lorsque vous pratiquerez, choisissez un lieu où la température est agréable et une position confortable. Portez des vêtements amples et retirez vos lunettes ou lentilles de contact et tout accessoire pouvant vous gêner, ceintures, chaussures, bijoux, etc. Le tableau suivant résume les éléments essentiels à la pratique du relaxologue. Nous en détaillerons certains dans le dernier module lorsque nous évoquerons les outils mis à sa disposition. Lieu. Endroit calme, sans distraction possible ou, au contraire, s'apparentant à un environnement normal pour faciliter le transfert des acquis dans le quotidien. Confidentialité des propos. Elle doit être établie lors de la première séance. Dans le cas d'un groupe de parole, elle est à rappeler à chaque fois qu'un nouveau membre est accueilli. Débriefing de la méthode au quotidien. Avant d'entamer une nouvelle séance, le relaxologue prendra le temps de discuter avec son client des changements intervenus ou observés dans son quotidien. Bienfaits des séances, mise en place de séances autonomes, changement de situation personnelle ou professionnelle, nouveaux soucis à gérer, amélioration ou non de la gestion du stress et du rapport aux autres et à l'environnement, etc. Tout ce qui pourrait mettre en avant les bienfaits du suivi ou une réadaptation de la méthode. Position. Assise. Allongé, yeux ouverts, fermés, très souvent liés à la technique choisie, mais le confort du client est aussi à considérer. Explication de la méthode au client. Expliquer les fondements, les objectifs de la méthode. Par exemple, cette technique s'appuie sur. Son efficacité a été démontrée. Vous vous sentirez très relaxé et calme tout en restant conscient. Je vais vous expliquer comment faire au fil de la séance. Tonalité vocale. La voix du relaxologue sera posée et calme, mais non hypnotique. En début de la séance, le discours se fera sur le ton de la conversation, puis le volume baissera et le rythme ralentira progressivement. Les pauses sont importantes. Elles permettent au client de se représenter une image, d'entreprendre une action et d'ancrer ses ressentis. Conclusion. Fin progressive pour revenir lentement à un état d'éveil. Chaque méthode présente sa propre forme de conclusion. Débriefing. À pratiquer en fin de séance. Retour d'expérience pour le relaxologue et possibilité d'une expérience plus gratifiante pour le client. Phase importante qui nécessite du temps. Possible libération des émotions. Cet échange permet de comprendre et de mettre en avant les bienfaits, mais aussi d'analyser ce qui n'a pas fonctionné en prévision d'une amélioration à la prochaine séance. Nombre de séances. La plupart des techniques peuvent être assimilées en 5 à 10 séances. D'autres méthodes peuvent être employées en parallèle et nécessiter un apprentissage plus long, comme dans le cas des groupes de parole. Le nombre de séances se définit donc en fonction des besoins du client, de la méthode choisie et des bienfaits obtenus, ainsi que du budget du client. Choisir une méthode qui rentre dans ses moyens pour pouvoir la mener à son terme. Le client doit approuver votre proposition. Qualité personnelle du relaxologue. Avoir conscience de l'utilité des techniques de relaxation, mais aussi de leurs limites. Elles ne sont pas une solution à tous les problèmes. Disposer d'une formation de base au métier de la santé et ou une expérience professionnelle avec le public visé. Une supervision régulière par un professionnel expérimenté est fortement recommandée. Objectif : libérer ses propres tensions, travailler sur des réactions émotionnelles potentiellement réactivées par la prise en charge des clients. Bienveillance et absence de jugement. Humilité. Vous n'êtes ni médecin ni guérisseur. Vous entrez dans une relation d'aidant ou d'accompagnant. Capacité d'écoute. Primordiale pour établir une relation de confiance avec ses clients et la faire perdurer, mais aussi pour choisir et adapter au mieux les techniques. Autonomie du client. Les techniques de relaxation permettent au client de rester conscient et de garder le contrôle. Lui seul est responsable des progrès accomplis, d'où l'importance de les mesurer. Pour l'aider, le relaxologue mettra en place un programme d'entraînement quotidien à suivre de manière autonome pour optimiser les résultats des séances. Plusieurs possibilités. Utiliser une méthode pour les séances et une autre pour s'exercer seul. Répéter les exercices de la séance chaque jour pour bien les maîtriser avant la suivante. Définition des modalités du travail en groupe. Type de groupe. Groupe d'entraide, groupe doté d'un meneur, organisation, programme, autonomie des participants, trace écrite, partage du temps de parole, stratégie pour briser la glace, maintenir la discussion, et calmer les tensions. Gardez à l'esprit que les professionnels de la santé, comme le médecin généraliste, sont des partenaires importants pour un thérapeute. Si l'un de vos clients se trouve dans une des situations suivantes, conseillez-lui de consulter son médecin traitant. Les effets du stress handicapent son quotidien. Si la relaxation ne le soulage pas rapidement, en 2 à 3 séances, il devra consulter son médecin traitant pour trouver un traitement complémentaire. Il précisera qu'il suit actuellement des séances de relaxation pour mieux gérer son stress et sa perception de la douleur. Ainsi, le médecin limitera la prescription de médicaments. En d'autres termes, il est préférable d'avoir une ordonnance pour traiter les symptômes ponctuellement et non de manière systématique et préventive. Par exemple, utiliser des traitements d'appoint pour soulager la douleur plutôt que des traitements de fond. Le client pourra alors adapter ses prises de médicaments en fonction des bienfaits des séances. Il doit pouvoir se rendre compte lui-même que ses besoins en antidouleurs ou autres médicaments sont moins importants. Un malaise physique prolongé intervient après le début de la séance. Il souhaite arrêter son traitement anti-stress ou antidouleur car les techniques de relaxation lui sont bénéfiques. Il présente des symptômes qui sont hors du champ d'application de la relaxologie, problèmes cardiaques ou effets secondaires de traitements médicaux, par exemple. Choisir une technique de relaxation adaptée au client. Ce choix est d'une importance capitale dans l'objectif de soins. Il semble évident qu'une technique amenant une expérience positive au client lui procurera un effet relaxant. Vous devrez vous interroger sur la nature du trouble ressenti et sur la méthode la plus adaptée pour y remédier. Par exemple, une blessure liée à la pratique d'un sport pourra bénéficier d'une prise en charge axée davantage sur le corporel, relaxation progressive. Un trouble cognitif, comme une phobie, réagira sans doute mieux à une approche psychologique, visualisation mentale. Étude de cas numéro 1. Tension musculaire dans le cou. Jeanne travaille dans la même société d'assurance depuis 25 ans et a bénéficié de promotions régulières. Elle a toujours été très perfectionniste et place la barre très haut envers elle-même. Elle aime son travail, même s'il l'oblige à passer beaucoup de temps assise devant un ordinateur. Jeanne entame sa 10e année de vie commune avec Marc, qui travaille dans l'administration. Elle est divorcée et son fils unique a quitté le foyer familial et réussit bien à sa vie de jeune adulte. Jeanne et Marc partagent la même passion pour le vélo. Les balades dominicales les aident à se libérer de la pression de la semaine. Jeanne est aussi passionnée de cuisine et adore s'occuper de son potager. Elle peut y passer plusieurs heures. Depuis plus d'un an maintenant, elle ressent des douleurs dans la nuque et le cou. Aujourd'hui, elle l'empêche de faire du vélo avec son compagnon et sont de plus en plus difficiles à supporter. Son médecin généraliste n'a constaté aucun trouble physique. Parfois, lorsque les choses se passent mal au travail, la douleur s'accentue. Jeanne se montre en général trop disponible et pleine de bonne volonté. Certains de ses collègues ont tendance à profiter d'elle. De plus, des changements récents ont bouleversé ses habitudes au bureau et cette situation semble avoir aggravé ses douleurs. Chaque soir, Jeanne rentre à la maison épuisée. Elle s'inquiète sans cesse pour ses douleurs et son travail. Sa belle-sœur, infirmière, lui a conseillé de consulter un relaxologue, car elle pense que ses douleurs pourraient être liées au stress. Le relaxologue procédera à une anamnèse, un historique de la maladie, pour déceler les problèmes du client, le choix de la méthode, définir les objectifs et le nombre de séances. Durant l'anamnèse de Jeanne, les points suivants sont apparus. Absence de problèmes médicaux, tension accumulée au travail, gêne dans ses loisirs. Ils orientent vers une origine psychologique des douleurs. La situation au travail vécue comme stressante, intensifiée par l'augmentation du stress et la frustration de devoir modérer ses activités de détente préférées. Un cercle vicieux s'est donc installé et doit donc être brisé grâce au relaxologue. Il choisira, avec l'accord de Jeanne, une approche psychologique pour mieux gérer son stress au travail et ainsi soulager ses douleurs. L'objectif recherché est de pouvoir à nouveau s'adonner à ses loisirs. Le relaxologue prépare ainsi Jeanne à apporter sa propre contribution au traitement. La jeune femme commence à se rendre compte qu'elle en attend trop d'elle-même. Elle pensait qu'être perfectionniste était une de ses meilleures qualités. Mais elle s'aperçoit que ce trait de caractère la dessert. Il contribue au développement d'angoisses stériles lorsque les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Elle comprend qu'elle doit apprendre à s'affirmer davantage. Le relaxologue lui propose de commencer par des étirements et des exercices de posture. Ils contrebalanceront les conséquences négatives des mauvaises habitudes de travail. Ils lui conseillent aussi de s'équiper d'un siège de bureau plus confortable, voire plus ergonomique. Pour diminuer la tension chez Jeanne, le thérapeute choisit des techniques de relaxation progressive en raison de leur efficacité sur le plan musculaire. Jeanne réagit très positivement à l'ensemble de ces procédures et s'engage à les appliquer à son lieu de travail. Peu à peu, grâce à une pratique quotidienne, elle commence à se sentir plus en paix avec elle-même et dans sa vie en général. Les douleurs dans sa nuque deviennent de moins en moins fréquentes et leur intensité diminue. Elle-même y pense de plus en plus rarement. Quelques semaines après le début de la prise en charge, elles ont complètement disparu. Jeanne se sent plus heureuse, d'autant plus qu'au bureau, les relations avec ses collègues s'améliorent. Elle est néanmoins consciente que les douleurs pourraient revenir et décide de continuer à suivre quotidiennement les méthodes transmises par le thérapeute. Que peut-on conclure du travail du relaxologue dans le cas de Jeanne? Trois éléments importants sont à noter dans le processus de retour au bien-être. Le relaxologue lui a proposé la relaxation progressive pour faire le lien entre le corps et l'esprit. Il a donc décidé de traiter le corps pour associer la détente musculaire à la détente psychique. Jeanne a pu apprendre à apaiser son corps pour calmer son esprit, mais aussi à calmer son esprit pour que les tensions ne se répercutent plus sur son corps. Il lui a conseillé d'agir dès le départ sur son environnement, changer sa chaise de bureau. Jeanne a appris à être autonome dans la gestion de son bien-être. Les séances lui ont permis d'intégrer la relaxation dans son quotidien et de retrouver la maîtrise de ses émotions, et donc de sa vie. Les effets de l'accompagnement ont été au-delà des espérances de Jeanne. En effet, elle ne semblait pas se plaindre de difficultés relationnelles avec ses collègues, mais plutôt de problèmes de responsabilité et d'adaptation aux nouvelles conditions de travail. Elle retrouve donc le goût d'aller travailler avec le sourire. Ses objectifs sont atteints. Elle n'a plus de douleur et peut enfin reprendre ses activités personnelles. Étude de cas numéro 2. Attaque de panique. Nicolas a enseigné au collège durant une vingtaine d'années. Il appréciait beaucoup son travail et prenait plaisir à soutenir ses élèves, à les voir progresser. Bien sûr, certains moments étaient plus difficiles que d'autres, mais il avait toujours su les dépasser. Il y a 10 mois, Nicolas a perdu sa femme, Laetitia, dont il était très proche. Elle aussi était enseignante, mais en primaire. Ils travaillaient dans le même quartier et avaient leur petit rituel. Ils se réveillaient à la même heure, prenaient leur petit déjeuner, partaient au travail ensemble et se retrouvaient souvent pour manger le midi. Au décès de sa femme, la vie de Nicolas a été bouleversée. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé seul, abandonné. Il avait perdu l'être aimé et n'avait plus envie de rien. Ce fut le début d'une spirale infernale. À l'école, les choses se passaient de plus en plus mal. Il avait moins d'entrain et de patience avec ses élèves. Des problèmes financiers sont également venus noircir le tableau. Un jour, alors qu'il faisait une marche arrière, son pare-choc a légèrement cogné contre un plot en béton. Nicolas s'est senti soudainement extrêmement paniqué. Impossible de reprendre la voiture. Il a dû faire appel à un ami pour le ramener chez lui. Depuis ce jour, il n'a plus conduit. Chaque tentative était vaine et se soldait par une crise de panique, angoisse irrationnelle, tremblements et sueur froide. Nicolas ne pouvait plus se rendre au travail et restait de plus en plus cloîtré chez lui. Il ne voyait plus personne, ne se nourrissait plus correctement. Sur les conseils de ses amis et de son entourage, il s'est résolu à consulter son médecin traitant. Celui-ci lui a prescrit des antidépresseurs, mais lui a aussi donné un conseil. Intégrer un groupe de parole spécialisé dans les phobies et les méthodes de relaxation. Nicolas s'est d'abord contenté des antidépresseurs, qu'il apaisait, mais ponctuellement. Dès qu'il arrêtait de les prendre, son malaise revenait au galop. Nicolas ne voulait pas devenir dépendant des psychotropes. Il s'est donc décidé à essayer la thérapie de groupe, au cas où ça marcherait. Le premier pas n'a pas été facile. Pour son premier rendez-vous, il a dû accepter de se faire aider par un ami, qu'il a déposé et est venu le chercher. Arrivé sur place, Nicolas n'était pas rassuré. Mais rapidement, il s'est rendu compte que les autres membres du groupe vivaient les mêmes choses que lui et que parler lui faisait du bien. Le groupe était de bons conseils. Progressivement, Nicolas est parvenu à se détendre. Il a pu alors commencer un travail sur lui-même. Objectif : modifier sa façon de penser et apprendre à relativiser. Ce n'était pas si grave de cogner contre un plot en béton. Cela arrivait à tout le monde d'être distrait ou de commettre une erreur d'appréciation. Bref, ce n'était pas la fin du monde. Lors de ce premier rendez-vous, il lui a été conseillé de tenir un journal de bord pour décrire ses angoisses, sa façon d'y faire face, s'interroger sur ce qui les déclenche et se questionner sur leurs justifications. Différentes techniques de relaxation lui ont aussi été présentées, comme la sophrologie, visualisation mentale ou la relaxation musculaire. Au début, Nicolas redoutait de se laisser aller à cette expérience. Il avait peur de perdre le contrôle, mais a rapidement été informé que c'était impossible. Les visualisations lui ont permis de se voir au volant de sa voiture et conduire à nouveau. Cette première séance a eu un effet très positif chez Nicolas. Il s'est senti soutenu et plus détendu. Il a appris, par ailleurs, que ces techniques ne montreraient leur efficacité que si elles étaient pratiquées 3 fois par jour. Dans les mois qui ont suivi, en continuant de se rendre 1 fois par semaine au groupe de parole, les choses ont commencé à s'améliorer. Nicolas avait beaucoup pratiqué et était content d'avoir acquis de nouvelles compétences. Peu à peu, il essaya de renouer avec la conduite. Tout d'abord en s'asseyant simplement sur le siège conducteur, puis en démarrant la voiture et en mettant sa ceinture, puis en roulant lentement dans son allée, puis dans la rue la plus proche, etc. Sa confiance en lui s'améliorait. Il avait encore des palpitations et des sueurs froides, mais il parvenait à les contrôler. Il avait enfin trouvé le moyen d'affronter ses attaques de panique, à défaut de les avoir fait disparaître. Le club de football de son quartier avait besoin d'un nouvel entraîneur. Nicolas se lança avec joie dans cette nouvelle activité. Que peut-on conclure du travail du relaxologue dans le cas de Nicolas? Tout d'abord, la prescription d'antidépresseurs par le médecin ne correspondait pas avec la manière dont Nicolas voulait s'en sortir. Les médicaments de ce type n'apportent pas de résultats durables, et Nicolas avait peur de ne plus pouvoir s'en passer. De plus, il diminue le sentiment de contrôle sur soi, alors que Nicolas en a besoin. Il le précise dans la présentation des techniques de relaxation. Nicolas choisit donc une méthode dont l'approche psychologique est adaptée à son trouble, l'imagerie mentale. Celle-ci entre dans le cadre d'un parcours de soins nommé « protocole d'accompagnement des troubles ». Il s'effectue toujours en parallèle d'un suivi psychologique. Inutile, dans le cas de Nicolas, de l'orienter vers un psychologue puisqu'il s'est volontairement engagé dans un groupe de parole. Cet environnement est suffisant pour l'aider à parler de son trouble et pour y trouver un réconfort et un soutien. Durant ce protocole, il effectuera des exercices de visualisation. Peu à peu, ils lui permettront de s'apaiser, de reprendre le contrôle de ses émotions et réactions, d'instaurer de nouvelles habitudes, de les ancrer dans son quotidien. Il s'imaginera réussir à conduire et s'habituera peu à peu à l'idée de pouvoir réellement le faire. En résumé, la méthode appropriée sera choisie en fonction de votre propre sensibilité et du profil de votre client. Le tableau suivant résume les principales méthodes de relaxation, leurs principes et les symptômes pouvant être traités. Ces techniques peuvent être davantage liées à une approche somatique ou psychologique. Le corps et l'esprit étant intrinsèquement liés, le mieux est de combiner au moins une technique de chaque type. Méthode de relaxation. Relaxation progressive. Principe. Une musculature relaxée est synonyme d'un esprit relaxé. Prédominance physiologique, mais présence d'éléments cognitifs. Symptômes. Anxiété généralisée et liée à des événements spécifiques, examens, prise de parole en public, etc. Phobie, angoisse, stress au travail, tension musculaire, hypertension, douleur dans le cou, le dos, maux de tête, insomnie, difficulté à s'endormir, indigestion. Méthode de relaxation. Étirement. Principe. Fondement physiologique. Le processus d'étirement entraîne une relaxation des muscles étirés. Symptômes. Anxiété généralisée. Stress au travail. Douleur dans la nuque, le dos, maux de tête. Méthode de relaxation. Technique respiratoire. Principe. Basée sur des principes physiologiques liés au système nerveux végétatif. Fonction habituellement non soumise au contrôle volontaire. Dans le cas de la relaxation, une modulation de certaines de ces fonctions est possible. Une respiration lente est liée à une dominance du système parasympathique, responsable, entre autres, du ralentissement de la fréquence cardiaque. Symptômes. Anxiété généralisée est liée à des événements spécifiques, examens, prise de parole en public, etc. Anxiété liée à des problèmes relationnels, cellules familiales, collègues de travail. Phobie, angoisse. Dépression. Colère, hostilité, irritabilité, rancœur, stress au travail, tension musculaire, douleur chronique. Méthode de relaxation, méditation. Principe, activité cognitive dont l'effet physiologique est de permuter l'habituelle dominance de l'hémisphère gauche sur l'hémisphère droit. Symptômes, anxiété généralisée, dépression, hypertension, douleur dans la nuque, le dos, maux de tête, douleur chronique. Méthode de relaxation, visualisation. Principe, approche cognitive qui utilise des techniques d'imagerie mentale et d'autosuggestion, basée sur le postulat que le corps n'est pas capable de différencier les événements imaginaires des événements vécus. Symptômes, usage abusif d'alcool ou d'autres substances, troubles alimentaires, douleurs dans la nuque, le dos, maux de tête, douleurs chroniques, phobie et blocage émotionnel, stress, dépression. Méthode de relaxation, entraînement autogène. Principe, fondé sur les principes de la suggestion, mise en place d'une transe légère. Approche cognitive, bien que les sensations de chaleur provoquées apportent une dimension physique. Symptômes, usage abusif d'alcool ou d'autres substances. Troubles alimentaires, tension musculaire, hypertension, problèmes digestifs, douleurs chroniques. L'importance de lâcher prise et de prendre du recul. Ces deux notions vont de pair et sont fondamentales au bien-être. Qu'entend-on par lâcher prise ? Cette expression ne signifie pas « devenir indifférent », mais plutôt « minimiser l'impact émotionnel d'une situation ». Il est tout à fait possible de lâcher prise en gérant parfaitement une situation. Le lâcher prise est une forme d'abandon d'un idéal. Nous l'avons vu dans le cas de Jeanne. Un idéal exige la perfection. Il est de ce fait inaccessible. Persévérer dans cette quête est une grande source de frustration. Lorsque Jeanne a abandonné cet idéal, elle est parvenue à se détendre. Elle est même devenue plus performante que lorsqu'elle le poursuivait. Elle a pu à nouveau combiner activité professionnelle et avec le sourire et loisirs personnels qu'elle ne pouvait plus pratiquer. Notre société actuelle est constituée de normes et des modèles d'idéal à suivre. La pression sociétale nous pousse à les atteindre. Il faut être performant et efficace professionnellement. En plus d'être de bons parents qui ne s'énervent jamais, un couple uni qui ne se dispute jamais, un ami loyal et au service des autres, etc. Parvenir à cet idéal, ne serait-ce que dans un seul domaine, relèverait déjà de la performance. Mais lequel choisir ? Être un bon parent ? Toujours présent et disponible pour éduquer ses enfants et mettre sa carrière entre parenthèses ? Ou exceller dans son domaine professionnel et consacrer peu de temps à sa famille ? L'épanouissement d'un individu ne se limite pas à un seul pan de sa vie. Chaque domaine, travail, famille, amis, etc., doit pouvoir être une source de plaisir. Et pour cela, il faut lâcher prise et abandonner un idéal. Le proverbe suivant illustre bien cette notion. Le mieux est l'ennemi du bien. Vouloir toujours plus n'aide pas à se satisfaire de ce que l'on a déjà. Grâce à la relaxation et au travail sur soi, il est possible de parvenir à abandonner cet idéal et de reconsidérer ses désirs profonds. Veut-on réellement être le meilleur dans sa profession ? Veut-on devenir le meilleur parent du monde ? Non, bien sûr. Nous voulons simplement être des travailleurs et des parents heureux. En abaissant légèrement le niveau d'exigence, les possibilités de réussite se multiplient. Ainsi, l'important n'est pas d'être le meilleur vendeur, mais simplement un bon vendeur, heureux de retrouver sa famille en fin de journée, où il n'est pas le meilleur parent, mais un bon parent tout de même. Il s'agit principalement d'une question d'équilibre. La relaxation permet de trouver ce juste milieu d'exigence propre à chacun. Selon les étapes de la vie, elles peuvent être revues à la baisse ou à la hausse. Le principal est qu'elles permettent de garder l'envie d'évoluer, d'avancer, de s'épanouir dans le présent, de ne pas être source de frustration. Comment la relaxation nous permet-elle de lâcher prise ? La relaxation apporte une détente immédiate. D'une part, elle permet d'oublier temporairement ses soucis, d'autre part, elle permet de prendre du recul. Cette notion peut être facilement illustrée ainsi. Imaginez une feuille de papier blanc comportant un rond noir en son centre. Le rond noir symbolise le problème. Le blanc symbolise le calme et la paix intérieure. Prenez un appareil photo et zoomez sur le rond noir. Cette couleur vous apparaîtra comme la seule de la feuille, envahissant votre champ de vision. Maintenant, tout en regardant dans votre appareil, Reculez de quelques pas. Prenez du recul. Quelle couleur domine à présent? Le blanc de la feuille. De la même manière, le stress se concentre sur les problèmes dans le but de les régler rapidement. À long terme, cette focalisation devient nocive et vous fait complètement oublier tout le reste, le blanc autour du point noir. Savoir reconnaître le stress. Le stress est une expérience quotidienne. On ne peut y échapper. Il résulte d'un événement auquel on doit s'adapter. Celui-ci peut se révéler extrêmement négatif, par exemple lors d'un danger physiquement imminent, ou au contraire, très positif, par exemple lors d'un succès bien mérité ou lorsque l'on tombe amoureux. Ainsi, le stress n'est pas mauvais en soi, bien au contraire, il est essentiel dans la vie. C'est la réponse apportée qui déterminera l'impact du stress sur l'existence d'un individu. Les sources sont diverses. Environnementales, pollution, bruit, circulation, climat, physiologique, mauvaise alimentation, manque de sommeil ou d'activité physique, blessures, maladies, changements corporels liés à l'adolescence, à la ménopause, au vieillissement, social, problèmes liés au travail, soucis financiers, conflits avec d'autres personnes, perte d'être aimé, liés à nos propres pensées. C'est le cerveau qui détermine la nécessité d'apporter ou non une réponse au stress. La manière dont nous considérons notre expérience vécue et nous projetons dans le futur servira soit à nous relaxer, soit à nous angoisser. Le stress dépend de notre interprétation de la situation. Nous nous demandons si la situation est difficile ou dangereuse, puis nous faisons le point sur nos ressources internes. Les personnes stressées ou anxieuses expriment souvent qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires pour affronter l'événement ou que celui-ci est trop difficile, douloureux ou dangereux. À la fin des années 30, un physiologiste, Walter Cannon, a développé le résultat de ses recherches. Il a conclu qu'en situation de stress, le cerveau reptilien prime sur les autres fonctions cérébrales. Une partie de la circulation sanguine de ces fonctions est déviée vers les membres pour limiter le nombre de comportements possibles. Une décharge d'adrénaline est envoyée pour gagner en rapidité et en force. Le cerveau reptilien représente la partie commune à l'homme et à l'animal. Il est le siège de notre instinct de survie, dont les deux seuls comportements possibles sont le combat ou la fuite. La recherche a démontré que tout problème, réel ou imaginé, entraîne la libération d'adrénaline. Elle entraîne divers bouleversements corporels, une augmentation du rythme respiratoire et cardiaque, de la tension artérielle et musculaire, une sensation de boule dans le ventre, une ouïe plus fine, la dilatation des pupilles pour affiner la vision. Ce mécanisme de défense et d'adaptation est essentiel à l'état sauvage ou en cas de danger imminent et réel, mettant en jeu la survie de l'individu. Mais il est devenu totalement inadapté dans notre société actuelle. Dans la nature, un tel comportement ne serait pas gênant. Une gazelle ayant fui un lion n'aura pas à se confronter au regard de ce dernier tous les matins au bureau. Mais lors d'un conflit relationnel ou une situation stressante, le fait de fuir ou de devenir agressif ne résoudra rien. Les choses s'aggraveront et le stress finira par s'installer durablement. Et c'est là qu'il deviendra nocif. L'exposition prolongée au stress atteint d'abord le psychisme avant de se propager au corps. Mais ce processus n'est pas inévitable. Grâce aux techniques de relaxation immédiates, il est possible de ramener le flux sanguin vers les fonctions cérébrales. Le stress chronique peut survenir à l'occasion d'une maladie, d'un divorce difficile ou encore d'un bouleversement au travail. Mais il peut aussi résulter d'une accumulation de différents facteurs, même intimes. Si la réaction au stress est active trop longtemps, la santé peut en pâtir. Les techniques de relaxation apprennent à contrôler cette réponse au stress. À vous de décider si une situation est stressante ou non. Dès que vous ne la considérez plus comme dangereuse, votre cerveau cesse d'envoyer des signaux d'urgence à votre système nerveux. La réaction au stress s'estompe. La priorité est donc d'apprendre à mieux communiquer avec soi-même grâce au lâcher-prise et à la prise de recul. Lorsqu'on se sent stressé, on peut s'interroger. Quel est le problème exact? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? En quoi m'empêche-t-il de faire ce que j'ai envie de faire? En quoi me fait-il faire des choses contre mon gré? Est-ce réellement grave? Est-ce que cela m'arrive souvent? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma réaction au stress si cela m'arrive à nouveau? 4 différents types de stress sont identifiés par l'APA, ou American Psychological Association. Le tableau suivant résume leurs caractéristiques. Stress aigu. Description. Forme la plus commune du stress, liée à des événements critiques qui font que les choses ne se passent pas comme prévu. Un rendez-vous raté, la voiture qui tombe en panne, etc. Symptômes. Détresse émotionnelle, irritabilité, colère, peur, anxiété, dépression, frustration, impatience. Problèmes physiques, maux de tête, douleurs dans le dos et ou la nuque, fatigue, tremblements, problèmes digestifs. Stress aigu épisodique. Description. Vision catastrophique des événements. Inquiétude généralisée. Souvent liée à des personnalités de type A. Personne compétitive, agressive, impatiente et instable. Symptômes. En plus des symptômes liés au stress aigu, maladie cardiaque, asthme, hypertension, migraine persistante. Stress chronique. Description. Stress provenant de situations angoissantes, quotidiennes et répétées. Mariage malheureux, vie familiale perturbée, traumatisme infantile. Lourdes conséquences somatiques. Symptômes. Problèmes physiologiques, anxiété persistante, rancœur, pessimisme, isolement, dépression, irritabilité permanente, colère extrême ou chronique, problèmes de concentration, cynisme, difficulté à faire face aux événements, sentiment d'insécurité. Problèmes physiques, troubles digestifs, perte d'appétit ou boulimie, fatigue chronique, hypertension, maladie cardiaque, migraine, douleurs chroniques, dos, épaules, etc. Système immunitaire affaibli. Stress traumatique et post-traumatique. Description. Réponse émotionnelle extrême, souvent associée à un état de choc, puis de déni. Effet puissant sur le long terme. Symptômes. Réaction normale à ce type de stress. Réaction physique, douleur dans le dos, troubles digestifs, nausées, maux de tête, transpiration, accélération du rythme cardiaque. Esprit, incapacité à se concentrer, souvenir limpide de l'événement, flashback. Émotion, changement d'humeur intense et imprévisible, nervosité, anxiété, dépression. Problèmes relationnels, besoin de s'isoler, disputes fréquentes avec les proches ou les collègues de travail. Exercice. Déterminer les symptômes du stress. La liste suivante regroupe tous les symptômes du stress. Elle permet d'évaluer le niveau de gêne perçu par la personne stressée. Complétée avant le début de la relaxation, elle oriente vers les symptômes à travailler. Complétée quelques temps après, elle permet d'évaluer les effets de la relaxation. Consigne. Notez de 1 à 10 les symptômes liés au stress en fonction du niveau de gêne qu'ils occasionnent dans votre vie. Ignorez les symptômes qui ne vous concernent pas. Liste des symptômes. Tension musculaire, hypertension, maux de tête, douleur dans la nuque, douleur dans le dos, indigestion, insomnie, difficulté à s'endormir, stress lié au travail, peur, phobie, rancœur, irritabilité, rage, inquiétude, dépression, anxiété généralisée, anxiété liée à des situations spécifiques, examen, date butoir, entretien, prise de parole en public, autre, préciser, anxiété liée aux relations personnelles, conjoint, enfant, parent, autre, préciser. Il est fortement recommandé de tenir un journal de bord pendant une ou deux semaines, voire sur du plus long terme. Chaque jour, il vous suffit de décrire tous les événements négatifs de la journée en précisant l'heure à laquelle ils se sont produits ainsi que leur contexte. Décrivez également les symptômes ressentis, qu'ils soient physiques ou psychiques, ainsi que leurs heures d'apparition. Avec le temps, le journal de bord permet de mieux se comprendre, d'appréhender ses réactions et leur origine. Analysez ainsi votre propre comportement en situation de stress. Quels symptômes déclenchent-ils chez moi? À quel point suis-je affecté? Ai-je tendance à dramatiser? M'est-il facile de lâcher prise? Quel genre de situation me stresse inévitablement? Imprévus, conflits, remarques prises pour soi, etc. En comprenant sa réaction au stress, on fait un premier pas vers l'apaisement. Lorsque nous nous sentons agressés sans raison, nous développons inutilement et inconsciemment un comportement de fuite ou de lutte. En s'interrogeant sur ce que l'on veut vraiment, on peut apaiser ce comportement. D'une part, parce que cela oblige à réfléchir et ramène ainsi le flux sanguin vers le cerveau. D'autre part, parce que nous sommes obligés d'observer la situation dans son ensemble pour trouver une issue positive. L'attention est alors détournée du problème pour se concentrer sur la recherche de solutions et les ressources nécessaires à son application. Par exemple, vous devez collaborer sur un dossier avec un collègue de travail qui semble de mauvaise humeur. Lorsque vous présentez le dossier au patron, il vous fait une remarque sur un ton peu sympathique. Vous avez apparemment oublié de préciser un élément. Deux comportements s'offrent à vous. La fuite. Vous ne dites rien ou quittez la pièce, mais bouillonnez intérieurement à en avoir mal au ventre. Le combat. Vous lui répondez sur le même ton, voire pire, quitte à empirer le conflit. Si vous reconsidérez la situation, vous pourrez l'apprécier dans son ensemble. 1. Définir ce que vous voulez vraiment. 2. Et mettre en place une solution. 3. Il était de mauvaise humeur avant de lire le dossier. Ce n'est sûrement pas de ma faute, mais mon oubli n'a fait que l'énerver davantage. L'oubli est bien de ma faute, mais il n'est pas obligé de lâcher sa colère sur moi. 1. Je ne veux pas me mettre en colère en ce moment et gâcher une collaboration qui s'est révélée fructueuse jusqu'à maintenant. 2. Peut-être qu'en reconnaissant mon tort et en y mettant les formes pour lui faire remarquer qu'il y est allé un peu fort, nous pourrons résoudre cette altercation sans tomber dans le conflit. 3. Je suis désolé d'avoir oublié de le préciser. C'est une erreur de ma part. Tu as bien fait de me le faire remarquer. Une manière plus douce aurait été la bienvenue. Tu as quelque chose qui ne va pas ? Tu as l'air en colère depuis ton arrivée. Il y a de fortes chances pour que votre collègue s'apaise, même s'il n'explique pas les raisons d'une telle humeur. Il prendra au moins conscience que vous n'êtes pas à l'origine de sa nervosité et que vous n'avez pas envie de la subir. Les relations resteront ainsi intactes. Pour parvenir à ce cheminement en situation de stress, il faut avoir appris à le gérer. C'est là que la relaxation intervient. En nous aidant à repérer ces symptômes avant qu'ils ne nous submergent, elle nous évite d'avoir recours à ce comportement primaire. Prenez l'habitude de noter, avant et après les exercices de relaxation, votre état de stress sur une échelle de 1 à 10. 1 égale aucune tension, totalement relaxé. 10, extrêmement tendu. Exercice. Inventaire des tactiques pour affronter le stress. Avant d'étudier les techniques de relaxation pour gérer le stress, reprenons les méthodes décrites jusque-là pour y faire face. Consigne. Marquez d'une croix les affirmations correspondant à votre comportement général ou à votre façon habituelle de gérer le stress. Ces affirmations sont adaptées du travail de Boyers, Coping Styles Questionnaire. 1. J'ignore mes propres besoins et je travaille plus dur et plus rapidement. 2. Je recherche le contact de mes amis pour leur parler et me sentir soutenu. 3. Je mange plus que d'habitude. 4. Je pratique un exercice physique. 5. Je deviens irritable et mes proches en pâtissent. 6. Je prends le temps de respirer, de me détendre, de me relaxer. 7. Je bois un café, un verre de vin, je fume une cigarette. 8. Je confronte la source de stress et je fais en sorte de la modifier. 9. Je me retire émotionnellement et je ne change pas mes habitudes. 10. Je change de point de vue sur le problème et j'adopte une meilleure perspective. 11. Je dors plus que je n'en ai besoin. 12. Je prends du temps pour moi et je m'extrais de la vie professionnelle. 13. Je fais du shopping, je m'achète quelque chose pour me sentir mieux. 14. Je rigole avec mes amis et j'utilise l'humour pour prendre de la distance. 15. Je bois plus d'alcool que d'habitude. 16. Je pratique des activités de loisirs qui me font du bien et me plaisent. 17. Je prends des médicaments pour m'endormir ou m'aider à me relaxer. 18. Je mange sainement. 19. J'ignore le problème en espérant qu'il disparaisse de lui-même. 20. Je prie, je médite où j'entretiens ma vie spirituelle. 21. Je m'inquiète pour le problème et j'ai peur de le résoudre. 22. J'essaie de me focaliser sur les choses que je peux contrôler et j'accepte les autres. Les nombres pairs représentent des tactiques constructives pour affronter le stress, contrairement aux nombres impairs. Si ces derniers ont été cochés, pensez aux modifications que vous pourriez y apporter, par exemple en remplaçant certaines mauvaises habitudes par celles des nombres pairs. Développer sa conscience corporelle. Inévitablement, notre corps se tend lorsque nous ressentons du stress. Mais pour déterminer sa réaction exacte, il faut commencer par différencier sa conscience interne, sentiments, sensations physiques, confort ou gêne émotionnel ressenti à l'intérieur de son propre corps, de sa conscience externe, stimuli reçus par nos cinq sens. Le plus souvent, notre attention est dirigée vers le monde extérieur, ce qui nous empêche de ressentir en partie l'attention corporelle. Les exercices suivants vous aideront à localiser celle-ci et à mieux l'appréhender. Exercice. Conscience interne contre conscience externe. Pratiquez cet exercice plusieurs fois par jour, dès que vous avez un moment de libre. Il vous aidera à mieux distinguer votre conscience interne de votre conscience externe. Il s'agit d'une forme de méditation. La méditation de pleine conscience, nous la développerons dans un prochain module. Focalisez votre attention sur le monde extérieur. Formulez des phrases qui commencent par « j'ai conscience de ». Par exemple, « j'ai conscience de la pluie qui tombe dehors, de la machine à laver qui tourne, de l'odeur des fleurs ». Après avoir pris conscience de tout ce qui vous entoure, dirigez votre attention sur votre monde interne, vos sensations physiques et votre corps. Par exemple, « j'ai conscience d'avoir froid aux pieds, de mon coude qui me gratte, de mon estomac qui gargouille, de la tension que je ressens en bas du dos ». Alternez entre conscience externe et conscience interne. Par exemple, « j'ai conscience de la tapisserie bleue, de mes mains qui s'entrecroisent, du vent qui entre par la fenêtre, de mes bras sur les accoudoirs ». Exercice. Partir à la découverte de son corps. Fermez les yeux et recherchez les tensions dans votre corps. Commencez par vos orteils, puis remontez progressivement. Quand vous trouvez une zone tendue, amplifiez-la légèrement pour en prendre davantage conscience. Vous pouvez dire « je suis en train de créer de la tension dans mon corps, dans les muscles de ma nuque. Je me fais du mal à moi-même ». Interrogez-vous. Quelles situations peuvent provoquer cette tension corporelle? Que pourriez-vous faire pour les modifier? En répétant cet exercice, vous saisirez l'importance du psychisme dans les sensations physiques. À l'inverse, vous pouvez aussi imaginer qu'une douleur s'estompe, que vous vous soignez vous-même. Exercice. Laissez aller son corps. Exercice de méditation respiratoire. Allongez-vous sur un matelas ferme ou un tapis et mettez-vous à l'aise. Remontez les genoux pour que vos pieds soient en contact du sol ou du matelas. Fermez les yeux. Demandez-vous si vous êtes confortable. Si ce n'est pas le cas, replacez votre corps. Prenez conscience de votre respiration, de l'air qui passe dans vos narines, dans votre bouche, puis dans votre gorge et dans vos poumons. Focalisez-vous sur votre corps et laissez ses différentes parties s'exprimer. Quelles sont celles qui s'éveillent spontanément à votre conscience? De quelles zones corporelles êtes-vous le moins conscient? Desquelles émanent le plus de sensations? Remarquez-vous une différence entre la partie gauche et la partie droite de votre corps? Maintenant, prenez conscience de vos sensations d'inconfort jusqu'à parvenir à les décrire. Concentrez-vous et soyez attentif à ces sensations. Elles pourraient changer. Inspectez votre corps et à chaque inconfort ou tension résiduelle détectée, expirez pour le faire partir. Continuez à vous laisser aller pendant 5 à 10 minutes supplémentaires en permettant à votre corps de se détendre. En répétant cet exercice, vous prendrez mieux conscience de votre respiration et des effets qu'elle vous procure, outre celui de vous faire vivre. En ouvrant les yeux, la plupart des gens ressentent les mêmes effets que s'ils venaient de faire une sieste. Ils sont calmes et reposés. En cas de situation stressante, cet exercice agit comme une relaxation immédiate et aide à retrouver un état calme. Conclusion. Ce premier module était une petite initiation à la relaxologie. Son objectif était de vous faire comprendre les notions principales de la relaxation, communes à toutes les techniques. Sa définition, le lâcher-prise et la prise de recul, les mécanismes du stress, la conscience interne et la conscience externe. Vous avez découvert quelques techniques de relaxation, même si vous n'en connaissez pas tous les détails. Vous pourrez les pratiquer très prochainement. Pour le moment, répétez les exercices pratiques détaillés dans ce module. La relaxation requiert un stade d'éveil qui frôle le sommeil. Il ne s'agit ni d'un état de conscience alerte, celui dans lequel nous sommes tout au long de la journée, ni d'un état de somnolence, mais d'un état à la frontière entre les deux. Cette particularité permet de s'adresser à notre inconscient tout en restant conscient. Son nom différera selon la technique. État méditatif, état sophro-liminal, état de conscience supérieure, etc. Mais l'effet sera le même. Un état de relaxation profonde qui vous plonge dans un besoin d'immobilité et de coupure avec le monde extérieur. Mais contrairement à l'hypnose, vous pouvez en sortir instantanément si vous êtes dérangé ou en cas de besoin. Ce stade peut être difficile à atteindre en début de pratique, ce qui est tout à fait normal. Mais grâce aux exercices et aux entraînements quotidiens, vous l'atteindrez de plus en plus rapidement. Commencez à vous entraîner dès maintenant, notamment grâce à l'exercice de méditation respiratoire. Vous devrez maîtriser cet état de relaxation profonde avant d'étudier les techniques plus spécifiques. Si vous pensez connaître parfaitement les notions théoriques de ce module, évaluez vos connaissances en répondant au quiz de fin de module. Dans le cas contraire, nous vous invitons à revoir les parties qui le nécessitent.